Radio Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kacham. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Comment réussir l'insertion socio-professionnelle des diplômés universitaires? On en parle aujourd'hui avec Yves-Daniel Gavan, coach dans les domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Yves-Daniel Gavan, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve tout à l'heure pour aborder ce thème qui intéresse bon nombre de jeunes à la recherche de l'emploi. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Jean-Claude Thial à la mise en onde au micro. C'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyens. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'emploi. Vous savez, ils sont des milliers de jeunes que les universités congolaises déversent chaque année sur le marché de travail. Après l'obtention des titres des gradués, des licenciés, après les réjouissances en famille, les jeunes se retrouvent face à la dure réalité du marché de l'emploi. Les offres d'emploi sont limitées pour eux et leurs chances de mener une vie économiquement indépendante sont moindres. Alors que faire pour réussir l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sortis fraîchement de nos universités? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service avec Yves-Daniel Gavan, coach dans les domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Il est également directeur général des DRC Business School. Yves-Daniel Gavan, la première question est de savoir quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, chaque année, on a les universités déversent sur le marché de l'emploi des diplômés, mais les opportunités d'emploi ne sont pas nombreuses, je veux dire.
Oui, je dis, il est vraiment regrettable parce que chaque année, c'est la répétition de la même chose. Donc, je pense que si on doit être un peu plus sérieux dans notre pays, donc on doit tirer les leçons du passé. Chaque année, et on revient sur le même question et on ne trouve pas des solutions. Alors quelque part, ça devient et inquiétant et embêtant parce que à quoi servirait la formation de toute une jeunesse que nous allons renvoyer droit au chômage? Ça profite à qui et on fait plaisir à qui? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit pas seulement se poser des vraies questions, mais avoir le courage de régler cette problématique une fois pour toutes, parce que les solutions existent. Nous avons fait des émissions, nous avons discuté, il y a des ouvrages, il y a des débats à tous les niveaux, mais on ne comprend pas jusqu'au jour d'aujourd'hui cette mauvaise foi à ne pas enclencher la machine d'emploi dans notre pays pour que réellement ces problèmes trouvent des solutions. Donc, La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écart entre les enseignements et le monde professionnel. C'est deux mondes qui vivent comme entre terre et ciel. Donc, on ne sait pas pourquoi on forme des gens et on ne se pose pas des questions. Qu'est-ce que ces jeunes deviendront demain? Et les gens qui sont dans le milieu professionnel, ils ne s'intéressent pas à ces jeunes à qui demandent de nombre d'expériences, qui savent consciemment qu'ils n'en détiennent pas. Donc, on entretient une sorte de cacophonie et qui, malheureusement, détruit l'espoir et l'avenir de toute une génération de jeunes qui espéraient aller à l'université, c'est gagner sa vie, mais ils se retrouvent qu'ils partent à l'université, c'est comme s'ils n'aient même pas étudié. Donc, ça devient inquiétant, et pour les jeunes, et pour les parents qui en payent le prêt, mais aussi pour la société qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir booster son économie. Nous, aujourd'hui, on doit revenir sur de vraies raisons.
Alors, Yves Daniel, la question que je me pose, est-ce que tous ces candidats qui sont déversés sur le marché, ils vont se retrouver au chômage parce que les opportunités d'emploi ne sont pas nombreuses, ou c'est parce que ils n'ont pas les niveaux requis par les entreprises ou par les recruteurs?
Je pense que les deux raisons sont valables. Premièrement, s'ils se retrouvent en chômage, c'est parce que il n'y a pas suffisamment d'emplois. Tu sais que ça fait plusieurs années que l'État, qui est le premier pourvoyeur des emplois, comme le dit notre Constitution à l'article 36, a croisé ses bras, il ne crée plus suffisamment d'emplois et il ne donne pas suffisamment d'impulsion au privé de le faire. Et les structures de l'État qui devaient aider les gouvernements techniquement à enclencher la machine sont en train de dormir paisiblement, du genre ONEM et tous les autres, au lieu d'aider l'État. Le système éducatif, il est défaillant en grande partie en ce qui concerne la jonction entre les réalités professionnelles et le monde académique. Ça, c'est de un. Mais aussi, il y a des jeunes qui vont faire des aventures à l'université. Des jeunes aujourd'hui qui se laissent à la corruption. J'enseigne à l'université, j'en sais quelque chose. Il y a des jeunes qui se laissent à la facilité parce que ils ont tout simplement besoin d'un diplôme et ils n'ont pas besoin d'une connaissance. Ce qui fait que lorsqu'il a ce fameux diplôme qui n'est qu'une présomption des connaissances, il se retrouve face à un monde professionnel de plus en plus exigeant. Il ne sait plus affronter ce monde et il est au chômage. Donc, je pense que les responsabilités restent également partagées à ce niveau-là. Et si on veut trouver de solutions, il faut s'attaquer aux vrais problèmes et on aura des solutions durables.
Voilà. Et quelles sont les autres raisons, à part celles-là, qui font que bon nombre des diplômés qui ont fêté dernièrement se retrouvent au chômage?
Oui, ces jeunes vont se retrouver au chômage, comme je l'ai dit, premièrement, parce que leur pays ne fait pas beaucoup d'efforts pour leur donner de l'emploi. Ça, c'est connu. De deux, toujours au niveau pays, des structures qui étaient censées offrir les opportunités pour qu'on comprenne, ne fût-ce que, quel est le vrai besoin aujourd'hui en termes de main-d'œuvre en RDC, combien d'emplois on doit créer, combien de demandeurs d'emploi on aura chaque année, combien de chômeurs que nous avons. Ce genre de structures continuent à se moquer de la jeunesse et fait que les jeunes sont au chômage. Mais aussi une autre raison, c'est que certains jeunes ont fait un mauvais choix dès le départ en termes de choix de filière. Donc nous sommes restés aujourd'hui avec le filière traditionnel alors que le monde évolue à une vitesse de croisière et que depuis un certain moment on est en train d'aller vers les nouvelles technologies et ainsi de suite. Mais nous on a toujours les sciences traditionnelles qui aujourd'hui n'offrent plus beaucoup d'opportunités. Donc il y a déjà un problème de choix, déjà d'orientation dès le départ. Nous sommes restés avec des filières basiques alors que le monde d'aujourd'hui va vers le numérique, va vers les nouvelles technologies et ainsi de suite. Donc, le mauvais choix, la mauvaise orientation fait que beaucoup de jeunes aussi ne trouvent pas assez d'opportunités. Et on va les ressentir dans les années qui viennent. Lorsqu'il y aura des offres, ça sera plus axé vers les nouvelles technologies et des gens qui ont fait des sciences basiques, qui ne vont pas se compléter leur formation avec ce genre de notions, vont déjà être butés en difficulté. On les ressent même aujourd'hui. Quand tu ne maîtrises pas l'informatique aujourd'hui, tu as du mal pour pénétrer la vie professionnelle. Donc, alors que hier, ce n'était pas le cas. Ça montre que de plus en plus, on commence à être exigeant vis-à-vis des nouvelles technologies et de l'information.
Oui, mais certains disent que si ces jeunes se retrouvent au chômage, c'est parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas la capacité. Certains n'ont pas la capacité de créer. L'État ne peut ne pas fournir des emplois, mais on peut avoir la capacité de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Oui, je voulais en venir. Ne faut pas demander à un jeune qui a suivi un parcours académique classique à la fin de devenir entrepreneur. Mais ça, c'est une illusion assez grave. On ne dort pas un matin, une nuit, on se réveille le matin, on devient entrepreneur. C'est tout un processus. Est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que nous préparons suffisamment nos étudiants à devenir entrepreneurs pour qu'on réclame qu'à la fin des études, ils le deviennent? Non, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Nos jeunes ne sont pas préparés à l'entrepreneuriat. Si on veut que nos jeunes créent des entreprises à la fin de leurs études, mettons dans leur curriculum le programme consistant qui les amène à pouvoir devenir créateurs d'entreprises, mais ça ne s'arrête pas là-bas. Il faudra mettre des moyens pour les accompagner et arriver à cette finalité. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes, malgré eux, qui essayent d'initier un certain nombre d'activités, mais qui échouent parce qu'ils ont du mal à passer de ce que je dis dans mon ouvrage, de l'esprit entrepreneurial à la culture entrepreneuriale. Donc, tu peux avoir cette envie de commencer, mais pour maintenir son business et que ça soit performant, c'est une autre chose. Mais aussi pour avoir tous les moyens nécessaires pour le faire, c'est aussi une autre chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut encore partager les responsabilités. Et là, je suis quand même heureux parce que j'ai appris quelques jours que le chef de l'État a promis qu'il y aura un fonds de garantie qu'on mettra en place pour effectivement aider à cette éventualité. Et nous souhaiterons que ces fonds soient gérés de très bonne manière et très bien encadrés pour que ça puisse vraiment aider, parce qu'on a vu des fonds comme ça, par exemple le fonds PED avec 10 millions de dollars que l'on aime à dilapider avec des stages plus ou moins bidons, même si aujourd'hui ils se frottent les mains. Mais c'était 10 millions de dollars qu'on pouvait orienter à autre chose, mais malheureusement, ce fonds a été géré de la manière de plus opaque et que nous n'avons pas de résultats. Donc aujourd'hui, les jeunes, effectivement, doivent aussi entreprendre au lieu de rester éternellement demandeurs d'emploi. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche.
Bien. Comment réussir l'insertion socio-professionnelle des diplômés, des jeunes diplômés sortis fraîchement de nos universités? Yves-Daniel Ngavan, coach dans les domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat, et notre invité, Jérémy Mwamba, vous nous appelez de Lubumbashi et Malunga, vous êtes à Bandundu-Ville, des questions et préoccupations. Composez le 081-890-63-94.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Kapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble.
Comment réussir l'insertion socio-professionnelle des diplômés universitaires? Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour Monsieur Jody, bonjour également, bien sûr, à l'invité avec vous. Je pense que c'est un sujet important qui fait d'ailleurs la une, parce que bientôt là, on venait d'assister donc à la collation des grades sur toute l'étendue, bien sûr, de la République. Oui. Mais il se pose bien des choses dans ce secteur de l'éducation. Vous êtes sans ignorer que M. Jody, en tout cas, c'est vraiment alarmant au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? La grande faute revient, d'une part, d'abord, à ceux-là qui sont censés réellement donner une éducation. Comment voulez-vous un monsieur qui a passé tout son cursus académique, scolaire, mais n'arrive pas au moins à créer un emploi? C'est vraiment inacceptable, M. Jody. Je pense que dans ce pays, lorsque un universitaire étudie, n'est-ce pas, c'est pour créer de l'emploi et non marcher avec les dossiers dans les essais en train de chercher de l'emploi à gauche à droite. Je pense qu'on doit mettre un programme taillé sur mesure dans, au niveau des universités, question de pouvoir inculquer à des étudiants des notions de l'emploi, de l'esprit de l'entrepreneuriat. Comment voulez-vous, cet esprit de l'entrepreneuriat est loin de retrouver sa forme. C'est vraiment inacceptable. Je pense que le ministère qui a en charge l'emploi doit s'appliquer là-dessus concomitamment avec celui qui a en charge, bien sûr, l'éducation au niveau supérieur et universitaire. Question de pouvoir remettre les choses sur les rails. Sinon, le problème de l'employabilité va toujours se poser dans ces pays. On ne doit pas tout le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a que dans la politique où les gens trouvent mieux. Parce qu'il y a le problème de chômage et les gens trouvent du temps d'aller gagner leur vie en politique. Non, on doit quand même mettre une politique en place. Question de pouvoir aider ces jeunes au niveau des universités. Il y a des cours qu'on appelle éthique et déontologie, je pense que dans chaque cursus scolaire. Pourquoi on impose ça? C'est pour apprendre un peu aux gens. Il y a des stages aussi qui se passent. Vous avez passé le stage dans une entreprise X. C'est pour vous rêver, question de pouvoir être prêt et préparé pour la vie. Mais quelqu'un qui a passé son stage, mais il manque l'emploi et on engage parce que vous avez votre oncle ou votre neveu que vous placez à la place. Ce n'est pas assez inacceptable dans ce pays. Jusqu'à quand on doit arriver avec le problème de tribalisme dans ce secteur d'employabilité parce que c'est mon oncle, parce que c'est ma nièce, tout ça, non, ça ne construit pas les pays.
Merci Jérémy Mwamba. Merci bien, on va accueillir Malonga de Bandundville. Bonjour Malonga.
Bonjour Jody, bonjour à tous ceux qui nous suivent et à vous vraiment. Pas des excellents sujets que vous nous préparez.
Quelle est votre préoccupation par rapport au sujet du jour?
Oui, en tout cas ma préoccupation, vraiment, vous savez, pour s'introduire ou bien chercher d'emploi, vous voyez, aujourd'hui, je veux vous rappeler une chose, c'est la période de collation. Lorsqu'on voyait une colonie des étudiants qui se réjouissaient pour leur diplôme, il y a quelqu'un qui disait que hein, vous vous réjouissez à aller au chômage. Alors vous allez nous réjouir, vous allez nous rejoindre ici au chômage. Ce diplôme que vous recevez là, c'est la remise au chômage. Lorsque j'ai entendu ce mot-là, en tout cas, ça m'a beaucoup choqué. Vous voyez, ça, c'est un plat de gouvernement. C'est le gouvernement qui reçoit les diplômes. C'est le gouvernement qui a vraiment le statut de tous les diplômés travaillés et de tous les diplômés qui chôment.
Oui, Malonga, oui. Quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport au thème du jour?
Oui, la question là, qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Ce n'est pas moi qui chômeur qui va se débrouiller pour chercher le travail. Oui, je peux créer mon travail ou bien mon entreprise. Mais on a fait quelqu'un qui fait comme ça que nous aussi on demande les crédits, ceci, cela, mais ça craint. On fait tout, mais on n'a pas soutenu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement préconise pour ces chômeurs? Parce que les chômeurs d'une nation, c'est une charge au gouvernement. Alors, qu'est-ce que le gouvernement prépare pour cet état de choses?
D'accord, merci Malonga de Bandundville. Clovis, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Clovis de Lubumbashi, bonjour. Voilà, il n'est plus là. Yves Daniel Gavane, vous avez la parole. Il y a Jérémy Mwamba qui dit qu'il faut déjà inculquer l'esprit de l'entrepreneuriat dès l'université. Comme ça, à la sortie de l'université, même s'il n'y a pas assez d'emplois, les jeunes ont la capacité de créer. Et il dit à cause du chômage, beaucoup aujourd'hui vont en politique, c'est là-bas, et qu'ils pensent gagner leur vie. Malonga nous dit, qu'est-ce que le gouvernement prévoit par rapport à cela? Parce qu'il a vu un groupe d'étudiants en train de se réjouir après la collation. Quelqu'un leur a dit, vous vous réjouissez parce que bientôt vous allez nous rejoindre au chômage.
Oui, Jérémy Mwamba, je partage son point de vue. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que il ne faudra pas qu'on attende quand quelqu'un a son diplôme pour lui demander de créer, mais il faut qu'on le prépare à arriver à créer l'emploi, déjà pendant qu'il est en système éducationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les diplômes que nous donnons à nos jeunes, c'est une présomption de connaissances, comme on dit, mais ça devient comme des trophées, et nous savons pertinemment que nos jeunes, quand après les collations, cette phase des collations, nous savons, nous parents, nous enseignants et la société et les gouvernements, que ces jeunes, 99% vont droit au chômage et dans un chômage long et obscur. Ça, c'est connu, donc ce sont des choses que nous vivons, ça fait des années et malheureusement, ça ne bouge pas. La politique du gouvernement, je ne suis pas du gouvernement, je ne sais pas donner un point de vue, mais comme commentaire, c'est que ces gouvernements, nous attendons que la question de l'emploi soit l'épicentre de son action, parce que depuis des années, c'est le secteur qui a très mal tourné. Nous pensons qu'il y aura la refonte totale de toutes les structures qui gèrent l'emploi dans notre pays, en commençant par les ministères et tous les services techniques, qu'on puisse laisser place à la compétence et que qu'on définisse un plan stratégique de création des emplois à l'horizon 2030, secteur par secteur. Ça va rebooster la question de l'emploi. Alors, de manière pratique, je dis, un jeune qui venait d'être collé, qui nous suit, il se pose la question, mais comment je vais le faire? Parce que jusque-là, nous avons parlé des choses qu'ils ont déjà entendues, mais concrètement, comment est-ce que ces jeunes vont s'y prendre? Premièrement, quand tu as ton diplôme universitaire, tu viens d'être collé, tu te réveilles le premier jour, tu dois commencer par ce qu'on appelle la prospection du marché de l'emploi. Cela veut dire quoi? Déjà, il faut reprogrammer ton système mental. Donc, tu vas te réveiller désormais plus tôt parce que tu dois te mettre à chercher à structurer le marché de l'emploi. Ça peut se faire physiquement. Tu dois commencer à aller visiter là où on publie les offres devant les entreprises pour voir la tendance sur les marchés. Quels sont les différents postes qu'on recrute le plus souvent et tu vas essayer de voir ces exigences par rapport à ce que toi tu as eu à l'université, si ça marche ou pas. Donc tu auras un programme d'aller régulièrement sonner les organismes pour pouvoir lire les offres. Si aujourd'hui l'Office national de l'emploi était un peu plus sérieux et organisé, je pense que ça allait être la première destination de tous ces jeunes pour aller voir les offres. Mais malheureusement, c'est une structure qui constitue aujourd'hui un problème au lieu d'être une solution. Mais aussi, cette prospection peut se faire sur Internet. Donc, désormais, il ne faut pas passer seulement ton temps à t'envoyer des messages sur WhatsApp et autres, mais tu peux aussi utiliser ton téléphone pour aller visiter des sites, par exemple RadioCapi.net, Média Congo et tous les autres qui publient des offres, pour que régulièrement tu sois en contact avec les offres et ça te donne déjà l'idée sur les exigences du monde professionnel, sur l'expérience qu'on exige, sur certaines pratiques, sur certaines qualités que tu dois développer. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut élaborer ce qu'on appelle un plan de carrière professionnelle. C'est un outil important. Donc, c'est pas aujourd'hui que tu quittes l'université et tu trouves directement l'emploi. Oui, ça peut y arriver, ça existe. Mais en principe, on doit faire une prévision de 3 mois, de 6 mois, d'une année, où tu définis d'abord une vision, tu veux travailler dans quel secteur, tu te définis les objectifs et tu prévois des actions et tu prévois même la durée, comment tu vas se faire. Donc, ce plan de carrière, j'en parle c'est le troisième chapitre dans mon livre « Passeport à l'emploi ». C'est une notion aujourd'hui que tout jeune qui vient d'être écolé doit maîtriser. Parce que tu ne peux pas chercher de l'emploi si tu n'as pas un plan de carrière professionnelle. Tu risques de chercher à vide, de postuler de n'importe quelle manière, sans orientation, et ça sera difficile. Et troisièmement, comment tu vas t'y prendre, c'est-à-dire tu dois intégrer les structures d'accompagnement. Donc comme l'université ne donne pas tout, je donne l'exemple simple des notions des CV, des lettres de motivation. Donc aujourd'hui, tu dois intégrer les structures qui accompagnent, par exemple DRC Business School, qui a un grand programme d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Là-bas, on va te donner un certain nombre de formations sur l'employabilité et voire sur l'entrepreneuriat pour te permettre de mieux te préparer aux éventualités liées à l'emploi. Mais aussi, il y a des stages. Il faut solliciter des stages en termes de bénévolat et de volontariat. Ça va te permettre encore de te rapprocher davantage de structures professionnelles et aussi, vous pouvez envisager une conversion professionnelle avec votre coach. Si vous avez un coach, tu peux avoir fini en médecine ou en droit, mais tu as besoin de travailler dans un organisme international. Il peut t'aider à faire la reconversion professionnelle pour que tu passes de telle profession à telle autre. Et il va t'orienter selon un certain nombre d'acquis. Donc voilà un peu de manière schématique. Prospection du marché de l'emploi, plan de carrière professionnelle, intégrer les structures d'accompagnement pour bénéficier des formations, voir des stages et aussi la possibilité d'être en contact avec un coach qui peut vous encadrer pour un éventuel changement de profession ou une reconversion professionnelle.
Comment réussir l'insertion socio-professionnelle des diplômés universitaires? Yves-Daniel Gavan, coach dans les domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat, et l'invité d'Okapi Service. Aujourd'hui, en ligne, nous avons Glody Deban de Nouville. Platini Mbombo nous appelle de Mbandaka. On commence avec vous, Glody. Bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à l'invité, bonjour à tous qui nous suivent à ce moment. Moi, je pense que ce sujet est vraiment intéressant. Mais par contre, je voulais quand même dire ceci. À ces problèmes, les responsabilités sont partagées. Nous ne pouvons pas juste condamner les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Non, mais parfois, les jeunes ne cherchent pas l'emploi. Ici, dans notre pays, vous pouvez voir quelqu'un qui est licencié, qui n'a pas mis une adresse email. Alors, parfois, il y a des emplois qui se font à ligne. Ça veut dire que vous postulez à ligne. Lorsque vous êtes retenu, on vous appelle aussi. On vous laisse le message par rapport à votre boîte email. Parfois, les jeunes, certains jeunes, ils n'ont pas des adresses email. Comment est-ce qu'ils peuvent condamner ce mal? Et la seconde chose, je pense que ce sujet, on a déjà parlé ça autrefois, toujours dans l'Okapi Service. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces problèmes? D'abord, nos jeunes, parfois, ils sont incompétents de rédiger même les demandes d'emploi, monsieur les journalistes. Et puis, on allait dire que non, au Congo, il n'y a pas d'emploi. Non, au Congo, il y a l'emploi, mais ce sont juste des jeunes qui sont incapables. Et il y a certains jeunes qui ont allé chercher l'emploi, ils n'ont pas trouvé. Moi, je pense que non. Donc, dans ces problèmes, il y a aussi d'autres problèmes qui sont très sérieux dans le pays. C'est qu'on crée des universités, même dans des brousses. Alors, des gens qui enseignent là-bas, qui sont incompétents d'enseigner, parce que son oncle, il était, parce que, et ils forment, et ils pensent qu'ils forment, et ils déforment les jeunes. Vous voyez le gros problème. Ils déforment les jeunes, et les jeunes, parfois, aussitôt terminé, il est incapable même de rédiger même une demande d'emploi. Et puis vous allez dire que même au Congo, il n'y a pas d'emploi. Non, au Congo, il y a l'emploi. Il faut juste d'abord chercher et il faut répondre aux critères. C'est là que vous pouvez être retenu. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager comme préoccupation d'aujourd'hui.
Merci Glody. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour. Et quelle est votre question?
Merci beaucoup Jody. Bonjour, bonjour l'invité, bonjour tout le monde. Je tiens vraiment à vous féliciter par rapport à la thématique d'aujourd'hui. C'est très important. Parce que vous et moi, ensemble avec la population congolaise, nous avons vécu comment le jeune universitaire vient de décrocher, de terminer leurs études universitaires, entre autres les conventions de garde académique, à tout ça. Mmh. Mais la thématique d'aujourd'hui, c'est lié avec l'emploi. Je dis, moi aussi, je parle aussi dans les deux aspects, parce que vous allez constater qu'un jeune homme qui a étudié à l'université, il a fait, je crois, ce qu'on appelle les médecines, mais il se retrouve, il travaille dans une banque, mais pas comme consultant en matière de médecine, mais il travaille dans une autre service. Et c'est ça ce qu'on appelle aussi les compatibilités. Et de deux, je voudrais aussi parler par rapport à la retraite, parce qu'aujourd'hui, comme mon prédécesseur a dit, qu'au Congo, il y a beaucoup d'emplois. Et l'emploi, aujourd'hui, on peut toujours créer l'emploi pour nous-mêmes. Comme je suis ici, je peux soit créer l'emploi et je suis moi-même, je peux devenir le propriétaire ou bien je peux devenir le patron. Mais ici, il se pose un problème. Tous les jeunes Congolais veulent toujours travailler dans l'administration publique de l'État. Mais au niveau de l'administration publique de l'État, comme ici chez nous en Mbandaka, il y a ce qu'on appelle les formations de jeunes professionnels de l'État, donc ça s'est fait ici chez nous en Mbandaka, ça prend au moins des mois pour former les gens, les jeunes gens qui peuvent travailler dans les jours à venir, dans les administrations publiques de l'État, tout ça. Mais il y a aussi un problème, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a des papas qui ont déjà beaucoup travaillé, qui s'occupent jusqu'au preuve du contraire, le grand poste au niveau de l'administration publique de l'État, entre autres, des chefs de division, les services généraux, tout ça. Mais des jeunes licenciés, des jeunes qui viennent aujourd'hui, à peine arrivés, vous souhaitez, il se pose un problème pour intégrer, pour avoir l'accès. Ça pose un problème. Si nous, les jeunes, on pouvait vérifier, demander à ses papas, si le papa a dit non, avant de quitter, il faut que l'État nous donne ce qu'on appelle, le retraite, on doit nous retraiter, on doit nous donner un peu de l'argent, tout ça.
Oui.
Mais, moi, je voudrais toujours, toutefois, ajouter, je dis, c'est par rapport à la demande d'emploi.
Oui, quelle est la question rapidement que vous adressez à l'invité?
Je vais poser la question un peu rapidement, je dis. Oui. Ici au Congo, il se pose ce problème. Vous pouvez avoir tout,
vous pouvez avoir les martiens, mais une fois que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la connaissance avec ces personnes-là, vous ne vous marquez pas la porte. Ici, c'est nous en Bandaka, je suis présent. Il y avait des tests ici, il y a une banque sur place ici à Bandaka, il y a des jeunes gens recrutés sur place ici. On a passé des tests, interviews, tout ça. Mais à la fin de compte, quand on a fiché la liste, on a trouvé que tous ces mots de l'Algérie de Kinshasa. Ici à Bandaka, on n'a recruté personne. Mais il y a des choses qui se font tout ça. Est-ce que si l'invité peut me dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrôler que le chef de l'État met un système de contrôler tout les organismes entre autres les demandes d'emploi, tout ça. Quand vous voulez recruter quelqu'un, est-ce que réellement ces personnes-là répondent réellement à ce que l'organisme demande? Parce qu'il vous mettez pas sur le problème. On peut recruter quelqu'un, mais il ne connaît rien. Parce qu'il est la face de
l'exécuteur
de tout ça.
Donc, merci Platini.
Je voudrais vous
remercier parce que
c'est un sujet qui vous
dérange
à tout moment. Merci beaucoup, Judy.
D'accord. Yves-Daniel Gavin, vous avez suivi Glody de Bandonville, dit qu'il n'y a pas, dire qu'il n'y a pas d'emploi au Congo, il dit que ce n'est pas totalement vrai. D'après lui, c'est plutôt le niveau faible des étudiants qui sortent des nos universités qui les disqualifient. Ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas s'exprimer.
Je pense que c'est son avis que je ne partage pas du tout. Je sais qu'il y a quelques emplois. Quand nous disons qu'il n'y a pas assez d'emplois, c'est-à-dire il n'y en a pas assez par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Mais il y a quand même des jeunes qui travaillent. Mais nous ne pouvons pas rester parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui ont trouvé du travail et c'est côté le main qu'il y a des jeunes qui travaillent. Ça fait beaucoup d'années que nous accompagnons des jeunes et je connais des centaines et des milliers aujourd'hui qui ont même des très bons CV mais qui n'arrivent pas à s'insérer parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois. Qui me disent, Glody, qui me donnent les statistiques des emplois créés par le gouvernement de la RDC en 2018. C'est de combien ou depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement peut nous dire il a créé combien d'emplois, s'il a les statistiques, parce que moi je n'en ai pas. Donc c'est pour vous dire que c'est une question très sérieuse. Je comprends que les jeunes ont des insuffisances, et je l'ai évoqué notamment, parce que ces jeunes ont des insuffisances, premièrement, parce qu'on a créé consciemment ces insuffisances auprès des jeunes. Ces jeunes ont été très mal formés et ils sortent de nos universités avec des insuffisances. S'ils étaient bien formés, je pense qu'ils devaient combler ces insuffisances. Mais il y a aussi des jeunes inconscients par eux-mêmes qui ne veulent pas prendre de la vie au sérieux et je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je crois qu'il faut vraiment bien nuancer des choses quand on doit dire, on doit traiter ces gens des sujets. Parce qu'aujourd'hui, les emplois, nous sommes un pays où on ne devait même pas avoir un taux de chômage que nous avons aujourd'hui qui est incalculable au regard de nos potentialités. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on a comme potentialité, en commençant par plus de la moitié de notre population est constituée de jeunes, et tous ces jeunes pratiquement sont au chômage, et il faut se poser des questions de fond. Donc moi je pense que si les emplois y a, c'est tellement infime par rapport à la demande qui ne fait qu'exploser chaque année. Donc,
oui, mais par rapport au deuxième aspect de sa préoccupation, des jeunes qui ne sont pas tellement qualifiés, qui ont réussi par la corruption, qui ne savent pas rédiger, qui n'ont pas un bon CV, qui ne savent pas peut-être rédiger une lettre de motivation.
Oui, je suis tout à fait d'accord, je partage cet avis. Je dis que ces jeunes ont été consciemment mis en difficulté pour qu'ils soient incompétents, mais aussi eux-mêmes aussi sont inconscients d'accepter d'être incompétents parce qu'ils ne veulent pas se faire former. Il y a des programmes d'accompagnement, je l'ai dit aujourd'hui, qui forment des jeunes sur l'employabilité. Moi-même, ça fait des années que je l'ai fait. J'ai écrit des ouvrages sur ça et nous avons lancé au moins des formations autour de ça. Donc, il y a des jeunes, effectivement, qui ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas employables et ils doivent rapidement se faire former après l'université. Ils doivent aujourd'hui chercher des formations de haut niveau pour se faire former. Bon, la multiplicité des universités, c'est aussi une bonne chose. Tout le monde n'est pas obligé de venir à Kinshasa, mais il suffit juste qu'on ait une bonne politique d'accompagnement et d'encadrement de ces gens d'initiative. Alors, notre ami qui est appelé de Bandaka, écoute, je pense que c'est un intellectuel. On ne peut pas demander au chef de l'État de tout faire dans un pays quand même. Donc, demander au chef de l'État de veiller sur les offres d'emploi, je pense que il faut bien lire la Constitution et savoir comment fonctionne l'État. Donc, c'est pas au chef de l'État de faire ce genre de travail. Il y a un gouvernement, et dans le gouvernement, il y a les ministères, il y a des services techniques, notamment l'Office national de l'emploi, qui doit régler ces questions techniques. C'est pas, ça revient pas au chef de l'État. Donc, il dit que il y a beaucoup d'emplois. Oui, bien bon, mais s'il y avait beaucoup d'emplois, pourquoi on se plaint des questions de corruption et de connaissances? Non, nous, on a postulé, mais on a pris tel qui est venu d'eux. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Je pense que nous avons la capacité pays de produire, et je l'ai démontré dans une autre émission, on peut produire plus de 1,5 million emplois chaque année dans ce pays. Et si on peut arriver à ces chiffres, je pense que les gens, on aura plus de travail que de demandeurs d'emploi. À ce moment-là, les questions de clientélisme, de corruption et autres vont même déjà disparaître. Parce, pourquoi aujourd'hui on sent cette pression, bien que c'est une pratique à décourager? C'est parce qu'il n'y a même pas assez d'emplois. On recrute une telle personne, vous êtes 500. Et quand on prendra une autre personne que vous, le 499 vont dire, voilà, ils l'ont pris parce qu'il est le frère d'eux. Mais s'il y avait 1000 postes qu'on recrutait à la fois, et quand les gens, 1000 personnes sont engagées, on ne dira pas que ces 1000 ont été forcément recommandés. Donc, il y a des questions de création d'emplois, et la machine de création d'emplois qui doit se mettre en place rapidement dans notre pays, je pense qu'avec l'installation du gouvernement, pour que nous puissions arriver à contenir, avoir un plan de contingence de tous ces demandeurs d'emploi qui affluent de part et d'autre, pour qu'on les oriente dans les secteurs spécifiques où ils seront utiles pour orienter la productivité et la croissance économique de notre pays. Bon, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a fini en médecine, qui se retrouve dans une banque, c'est une confusion et ainsi de suite. Non, c'est lui-même qui est dans la confusion. Il y a ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Le monde professionnel et le monde académique, c'est pas forcément la même chose. Donc quelqu'un peut avoir fait le droit ou la médecine, mais pour des raisons d'attachement, de passion ou encore d'orientation professionnelle, il peut se faire former, par exemple en finance, il peut se faire former en logistique, et demain, quand il occupe le poste de logisticien, bien que au départ, c'est un juriste, tu ne diras pas que c'est une confusion. Non, ça s'appelle la reconversion professionnelle. Et c'est une des démarches aujourd'hui qu'il faut enseigner aux jeunes pour qu'ils ne restent pas figés et prisonniers de leur diplôme, alors oui, qu'il y a des autres possibilités de se retrouver.
Yves Daniel, mais pourquoi avoir fait alors la médecine pendant toutes ces années pour se retrouver en train de travailler au service de la clientèle dans une banque?
Mais tu sais que la vision est évolutive et le monde évolue et aussi les prétentions évoluent. Donc, pour faire la médecine, il faut 7 ans et quand on fait les choix, comme je dis, il y a certains, peut-être qu'il a été mal orienté par ses parents ou par quelqu'un d'autre, mais au bout du chemin, il se rend compte qu'il y a tel secteur qui est beaucoup plus passionnant ou bien qu'il avait aimé la médecine ou le droit au départ. Mais au regard des évolutions professionnelles, au regard de son plan de carrière professionnelle, il estime qu'il peut faire autre chose. Je pense qu'on ne va pas condamner ces jeunes à rester dans ce qu'il avait fait, alors qu'il a la possibilité d'en faire d'autres. Pourquoi? Parce que le monde professionnel, c'est un monde qui nous offre beaucoup d'opportunités, à condition que tu puisses très bien l'aborder et à te créer des pôles de compétences dans tel ou tel autre domaine, et tu seras capable d'affronter plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas tellement parce qu'on a eu un tel diplôme, mais on travaille aussi parce qu'on est passionné de quelque chose, mais on travaille aussi parce qu'on a des compétences qu'on a développées dans un domaine X et que ça peut t'aider à décrocher un emploi.
D'accord, on va accueillir deux auditeurs, Mardoché d'Egbadolité et Eric Chama de Kinshasa. Mardoché, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation? Nous parlons de comment réussir l'insertion socio-professionnelle des diplômés universitaires.
Oui, j'ai une question à l'invité, mais avant, je pense que si nous sommes aujourd'hui dans cet état de choses où il y a le chômage qui bat son plein, c'est à cause du gouvernement congolais. Vous allez voir que même auparavant, on nous disait que si un étudiant qui n'a pas des expériences professionnelles avec des formations, ça peut aider à intégrer une entreprise. Mais aujourd'hui, même si vous avez beaucoup fait des formations, cela n'a pas d'importance même chez le recruteur. Alors, la question que je voulais poser à l'invité, il est en train de dire qu'il forme à travers son ONG les jeunes dans le monde d'emploi. Dans des provinces, c'est aussi les jeunes qui se trouvent en province de bénéficier de cette formation. Voilà, merci, c'est ça ma question.
Bien, Eric Chama, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Louis.
Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, merci beaucoup. Je salue d'abord 1000 personnes ou 1000 aussi des voisins, des milliards. Je suis aussi en ce moment. Oui, aujourd'hui pour les thématiques du jour, je voulais ainsi définir d'abord une chose où je me rappelle souvent, c'est un économiste qui dit que le développement indique l'amélioration du bien de toute la population. Et il dit aussi, c'est traduit par une hausse des revenus. Et aussi l'amélioration des services ou l'accès aux services de santé et de l'éducation. Point barre. Comme l'invité du jour a dit quelque chose, mais moi j'ai aussi martelé quelque chose où on dit que le secret, d'un secret, c'est le secret. Actuellement, nous voyons qu'il y a tant d'emplois ici à Kinshasa ou en EDC. Mais nous voyons que c'est l'incompétence de nos jeunes universitaires donc, qui sont là. D'ailleurs, il y a un intervenant donc, qui a intervenu immédiatement ici qui nous dit que non. Oui, nous voyons que même un étudiant ne sait pas, ou bien ne sait pas en fait faire quoi, rédiger une lettre de motivation. Mais je suis vraiment déboussolé, monsieur le journaliste. Ce qu'il a, c'est quoi? Moi, j'estime que, comme moi en fait, je suis un auteur écrit. J'ai une brochure que j'ai rédigée à bientôt ici, mais avec le gouvernement congolais, le gouvernement ne sait pas donc prendre aussi les gens en charge, c'est-à-dire les gens ainsi motivés. Non.
Alors, quelle est la question, quelle est la question, Eric?
Congo, donc c'est un pays que j'aime trop depuis ce message.
D'accord, merci. Merci. Je reviens à vous, Yves Daniel, vous avez suivi. Revenons d'abord à la préoccupation de Platini Mbombo qui dit que beaucoup des jeunes aujourd'hui sortis fraîchement des universités désirent aussi travailler dans l'administration publique. Mais arrivé là-bas, c'est très compliqué pour eux d'intégrer l'administration parce qu'ils trouvent, par exemple, certains papas qui sont là depuis plusieurs années et qui ne libèrent pas les postes parce que ils savent pas aller en retraite parce que le gouvernement ne leur a pas donné les moyens pour aller en retraite. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Oui, tout à fait. Je dis, tu sais que lorsque on veut aujourd'hui résoudre cette question d'améliorer l'insertion socio-professionnelle des jeunes, on doit régler aussi la question de retraite. Donc, j'espère que le gouvernement qui se mettra en place dans les jours, dans les semaines qui viennent, va prendre à bras le corps non seulement la question de l'emploi comme épicentre de son activité, ou encore comme le fer de lance de développement de notre pays, mais surtout régler aussi la question de retraite. Il y a eu plusieurs années, on nous parle de réforme de l'administration publique. Mais ce ne sont que des concepts, mais in concreto, nous ne voyons pas des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de voir que nos papas qui ont rendu des loyaux services à la nation, qui ont atteint l'âge d'aller se reposer, d'aller en paix, en toute dignité, se reposer et laisser place à leurs enfants de continuer l'œuvre qu'ils ont commencé pour le pays. Mais malheureusement, nos papas ne sont pas allés en retraite. Moi, j'ai un oncle qui est allé en retraite à l'ONATRA, ça fait 8 ans, il n'arrive pas à toucher son argent. Donc, ils sont nombreux, des milliers comme ça, et qui attendent, et au point où ça décourage même certains parents à aller en retraite. Je ne vois pas un homme qui a atteint un âge qui n'a plus assez de force de s'accrocher à l'emploi si on lui donnait une sortie heureuse d'aller se reposer. Donc, le gouvernement doit nous faciliter la tâche et nous espérons, parce que cette question des retraites, c'est la question du gouvernement, c'est pas la question de retraiter. Les gens ont besoin d'aller se reposer, mais ils doivent aller de manière honorable parce qu'ils ont rendu de loyaux services. Et si nous, aujourd'hui, nous voulons pousser ces parents à aller de manière misérable, nous aussi, demain, on aura leur âge, et on le fera la même chose pour nous, et ça ne sera pas très utile. Donc la question des retraites doit vraiment être une priorité des priorités. Mais aussi, il y a un auditeur qui a parlé de formation. Il dit, on forme aujourd'hui plus de jeunes, et je l'ai dit, c'est vrai, nous commençons à ressentir ces problèmes. Il y a aujourd'hui plus de jeunes aussi qui se font former quand même, bien qu'on... Il y en a encore à ceux qui doivent le faire. Mais il se pose toujours ces problèmes de création d'emplois. Parce que à quoi servirait de former et que nous ne sentons pas le retour de l'ascenseur, c'est-à-dire une dynamique au niveau du gouvernement, au niveau pays, de créer et d'inciter à la création des emplois. Donc on va se retrouver un jour, vous avez pratiquement des jeunes outillés, mais il n'y a pas de débouchés. Donc l'État doit aujourd'hui nous aider
à réfléchir et à poser des jalons pour que les emplois reviennent dans notre pays. Il y a toutes les stratégies qui existent pour que le Congo soit un paradis d'emploi et non l'enfer du chômage. Ça existe. C'est question juste d'une volonté,
oui,
qu'on puisse dépolitiser les secteurs de l'emploi, qu'on ne nous mette pas des gens qui jouissent des trafics d'influence pour gérer des secteurs de l'emploi, mais qu'on donne aux techniciens qui ont des projets et qui sont capables de faire des choses. Ils sont nombreux dans notre pays et qui peuvent faire ces choses.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir deux autres auditeurs, Ogi Bukasa de Mumbashi, Chaste Kalinga de Kolwezi. Ogi, bonjour, et quelle est votre question brièvement? Ogi Bukasa, bonjour. Il n'est plus en ligne, on va accueillir Chaste de Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, c'est Chaste Kalinga.
Chaste Kalinga, quelle est votre question par rapport à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés?
Oui, j'ai suivi l'intervention de l'invité sur le plateau. Il a parlé de défauts des choix des filières des étudiants. Quand ils vont à l'université, comme il a dit, les défauts des choix des filières. Mais comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui passe 5 ans, soit disant qu'il a fait les défauts des choix des filières, mais tout à l'heure, là, il venait de dire qu'après avoir fait ses études, vous pouvez voir quelqu'un qui a fini en médecine, mais pour le choix de l'évolution, de la passion et tout du travail, il se retransforme en logisticien et il va bien exécuter son travail. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, on va parler de... Ce sont les élites, les professeurs que nous trouvons à l'université qui ne veulent pas nous donner la matière comme il se doit.
D'accord. Merci. Yves-Daniel Gavan.
Oui, ça c'est...
Yves-Daniel, vous avez la parole.
Oui, je pense que j'ai parlé de la question de la reconversion professionnelle et que je pense qu'on pourra... On a fait des émissions il y a quelques années sur la reconversion professionnelle, mais s'ils le veulent, on pourra encore revenir sous expliquer c'est quoi la reconversion professionnelle, quand est-ce qu'on peut faire une reconversion professionnelle, quels sont les avantages d'une reconversion professionnelle et à quel moment quelqu'un peut envisager faire une reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est une thématique peut-être qu'on n'aborde pas encore suffisamment dans nos universités et autres. Ce qui fait que beaucoup de gens sont restés prisonniers, et c'est ça le mal de Congolais, d'un certain nombre de Congolais. Ils sont prisonniers de leur diplôme et certains sont même incapables de s'auto-employer parce qu'ils se disent « moi je suis licencié, je ne peux pas commencer à vendre des cacahuètes, moi je suis ceci, je ne peux pas ». Cette licence ne te donne rien, ce n'est qu'un trophée que tu as, tes diplômes. Ça ne te donne rien, mais tu peux aller dans un autre secteur où tu peux te faire former être utile. Au fait, ce complexe qui est déjà arrivé a mis beaucoup de jeunes aujourd'hui au chômage parce que tout simplement, ils se disent, moi j'ai fait ceci, je ne peux pas faire là. Alors que le monde professionnel, il est en pleine mutation, tu peux te retrouver dans un autre secteur en faisant bien un travail alors qu'au départ, tu as été formé à autre chose. Donc c'est faisable et c'est acceptable.
Voilà, on va accueillir Jean de Ouata. Bonjour Jean.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les compatriotes qui sont à l'écoute de la radio au Capi à ce moment.
Quelle est votre question par rapport à l'insertion socio-professionnelle des diplômés universitaires?
Exactement. La première question, malheureusement, a été déjà posée par mon prédécesseur. C'était... comment on peut recycler les vieux aujourd'hui, parce que nous nous rendons compte que partout là il y a seulement les vieux.
D'accord, cette question là était déjà abordée. Est-ce que vous avez une autre question? Celle-là était déjà abordée. Vous avez une autre question?
La dernière question c'est celle-ci.
Oui.
Quand j'étais tout petit, mes parents disaient que dans les pays développés il y a des chômeurs, oui, mais le gouvernement a débloqué un montant pour rémunérer ou bien pour payer
les chômeurs
chaque fin du mois.
Oui.
Voilà. Je me demande si réellement cette histoire existe. Si oui, qu'est-ce que le gouvernement congolais attend pour adopter ce système ici en RDC?
Merci. Yves-Daniel, qu'est-ce que le gouvernement attend pour commencer à payer les chômeurs?
Oui, le gouvernement, avant même de payer les chômeurs, il doit nous dire combien de chômeurs il y en a en RDC. Nous ne savons même pas si on a combien de chômeurs. Donc, c'est là où il faut commencer. Si on ne connaît même pas le nombre de chômeurs, comment on saura les payer, comment on va créer des emplois et ainsi de suite. C'est une question qui nous trouble parce que la fois dernière, j'ai posé la question au directeur provincial de l'ONEM de Kinshasa, qui répond par ironie, alors que c'est une question capitale. On ne peut pas comprendre comment on gère une institution comme l'Office national de l'emploi et on est incapable aujourd'hui de nous donner des statistiques fiables sur le nombre de chômeurs que nous avons secteur par secteur et nous donner un plan prévisionnel et référentiel des emplois qu'on doit créer à l'horizon 2023 ou 2030 comme un document technique qui devait faire à leur niveau. Ils n'ont pas ça. Donc aujourd'hui, il faut d'abord réglementer les secteurs de l'emploi, faire l'autopsie de notre secteur de l'emploi, refondre certaines structures qui ne servent à rien aujourd'hui pour leur donner vie afin d'aider les gouvernements à être capables à prendre en main le corps ces problèmes. Les chômeurs, on peut les payer dans notre pays, mais il ne faut pas que ça soit un slogan politique ou un slogan creux. Mais il faudra une certaine intelligence technique pour arriver à créer suffisamment des emplois, parce que le superflu des emplois créés pourra aider ceux-là qui n'ont pas encore trouvé à pouvoir se faire payer. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous ne créez pas des emplois, les gens sont très mal payés, et dit que vous allez créer et payer les chômeurs, vous allez les payer avec quel frais?
D'accord, on va...
C'est la magie.
On va accueillir Chama qui nous appelle des Mouaka. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Chama?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jordi. J'ai une question. Mais la question avant que Jordi s'est un peu posée, je voulais un peu contredire un peu assez monsieur l'intervenant ou bien monsieur l'invité du jour pour savoir que la théorie et la pratique c'est différent. Donc à l'université, avec les jeunes universitaires, la théorie c'est autre chose, mais la pratique c'est autre chose. Alors c'est ma question, c'est de savoir quelles sont les conditions ou critères pour être retenu à l'organisme international. Parce que j'ai vu, il a beaucoup expliqué en fait, je suis vraiment ravi, et sans taquiner, il a félicité, mais pas totalement. C'est pourquoi la question, c'est de savoir, là,
d'accord,
quels sont les critères, alors.
D'accord, merci. Donc, on est en train de discuter Yves-Daniel Gavan, on arrive petit à petit à la fin de cette émission. Nous parlons de l'insertion socio-professionnelle des diplômés universitaires. Au niveau des jeunes eux-mêmes, vous avez dit qu'ils doivent... faire après la collation des grades, évidemment, faire la prospection du marché et de l'emploi, aller lire les offres sur Internet, sur les sites des radios Capi et ailleurs, élaborer un plan des carrières professionnelles, intégrer des structures d'accompagnement, faire du bénévolat, des stages professionnels et penser aussi à la reconversion professionnelle. Au niveau des universités, au niveau de l'État, rapidement, qu'est-ce qui doit être fait, Yves Daniel?
Oui, l'auditeur qui vient d'appeler, je ne vois pas en quoi il m'a contredit. Au contraire, il s'est contredit lui-même, parce que moi, je n'ai pas dit que la pratique et la théorie, c'est la même chose. Donc, je ne peux pas dire que c'est une contradiction. Mmh. Au niveau de l'État, nous pensons qu'il faudra que l'État puisse nous faciliter la tâche. La Constitution est claire à l'article 36 qui fait de l'emploi un droit et un devoir sacré pour tout citoyen. Et l'État devait se prendre ses responsabilités pour nous mettre à l'abri du chômage en créant des conditions favorables, notamment en créant des emplois et en aidant les investisseurs qui veulent le faire, à le faire en allégeant un certain nombre de choses pour que les emplois reviennent.
Assainir le climat des affaires.
Tout à fait. Mmh. Mais aussi au niveau des systèmes éducatifs, nous, d'abord au niveau du gouvernement, nous demandons à l'État aujourd'hui de revoir vraiment de très près les structures techniques, notamment l'Office national de l'emploi, parce que cette structure devient un problème alors que ça devait être une solution pour aider l'État à bien voir les questions liées à l'emploi. Mais le système éducatif aussi, nous insistons, ça ne sert à rien de demander à nos jeunes, quand ils ont les diplômes, de créer des emplois si au départ les contenus du système ne leur donnent pas la possibilité d'être formés comme créateurs d'emplois. Donc aujourd'hui, si on veut que nos jeunes deviennent demain les créateurs de leur propre emploi, commençons par les former à cette éventualité, c'est-à-dire revoir le volume horaire des cours dédiés, par exemple, à l'entrepreneuriat, à la gestion, l'évaluation des projets et autres, et le rendre beaucoup plus technique et pratique pour que ce jeune soit apte à le faire une fois sorti de l'université. Mais aussi, on doit réglementer les stages. Le stage ne doit pas être un moment où
d'accord.
on se promener en entreprise.
D'accord, Yves Daniel.
C'est un moment très utile pour l'apprentissage.
Merci Yves Daniel Ngavan. Je rappelle que vous êtes coach dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et merci à vous de nous avoir suivis, fidèles auditeurs. On se retrouve demain à la même heure, 10h05, heure de Kinshasa. À la prochaine.